Et sur les docks, tout de suite avec vous Irène, et vous cette semaine, vous parlez de la COP21.
Et oui, c'est le dernier épisode de notre triptyque COP21. Hervé, nous vous proposons de découvrir ce qui, selon les étudiants de sciences politiques, pourrait se passer à la dite COP21. C'était en mai 2015 et ils étaient nombreux à imaginer les conditions d'un futur pour notre planète.
Alors une sorte de comédia del clima selon Arnaud Contreras.
Oui Hervé, les délégations, les enjeux climatiques, les rapports de force... Tout a été envisagé puis vécu et enfin rendu public au Théâtre des Amandiers, devenu Théâtre des négociations à Nanterre près de Paris. Siégeait aussi Bruno Latour, sociologue et professeur à Sciences Po, ainsi que Frédéric Haït-Touati, chercheuse au CNRS. Mais chut, le rideau va se lever sur une expérience politique et artistique.
Ça, ça vous va pour la lumière pour, au plateau pour vous ?
Je vois si oui, ça me suffit ça, en lecture, ça. Ouais.
Vous aurez de l'image tout le temps.
Jean-Christophe, tu peux baisser un peu ?
Est-ce qu'on pourrait tout passer une fois rapide dans l'ordre ? Ah oui, c'est bien là, la lumière.
Ouais. Ali, oui, tu veux que je t'aide à quelque chose ?
Qu'est-ce qui se prépare ici ?
On va accélérer aussi.
Une conférence. Depuis le début de la journée, il y a des conférences toutes les deux heures, en fait, dans cette salle et puis dans les autres aussi. Et pourquoi on nous parle de mystère et qu'on veut qu'on quitte la salle absolument ? Il n'y a pas de mystère, en fait. C'est juste que, vous voyez, on est en réglage, donc on est en phase de travail.
Voilà.
On ne peut pas présenter une phase de travail à du public. Donc, voilà, tout simplement. Donc, c'est une position politique ? Absolument pas.
Comédia del Clima, Arnaud Contreras, Christine Robert. En mai 2015, 200 étudiants venus du monde entier sont réunis au Théâtre des Amandiers à Nanterre, près de Paris. Ils participent à une expérience politique et artistique, Make It Work, le théâtre des négociations, une simulation ouverte au public, de la Conférence internationale sur le climat, la COP21. Make It Work a été conçu par SPIP, le programme d'expérimentation en art et politique de Sciences Po, autour de Bruno Latour, Frédéric Haït-Touati, en liaison avec le groupe Make It Work de Laurence Toubiana et Mathilde Imer, mise en œuvre par Philippe Ken. Comme dans la Commedia dell'arte, les participants et acteurs fuient un cadre rigide pour improviser une comédie marquée par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité.
Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu ce qui est écrit en gros sur les parois du théâtre, l'intitulé c'est « Make it work », faites en sorte que ça fonctionne. Cette injonction, elle s'adresse non seulement aux étudiants qui sont les délégués au sein du théâtre des négociations, elle s'adresse également aux vrais négociateurs politiques de décembre à Paris, elle s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Donc l'idée, faire en sorte que ça fonctionne et avec l'idée de faire autrement, puisqu'on est au théâtre. Donc si c'est pour juste faire comme d'habitude, c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'il y a eu 3 innovations dans les négociations telles qu'elles se font. La première, on voit apparaître des délégations qui, d'ordinaire, n'ont pas voix au chapitre dans les organisations type ONU. Par exemple, à côté des bonnes vieilles délégations étatiques, on voit surgir des délégations plus incongrues. Les océans, les sols, les réserves de pétrole. Tous ces éléments, qui sont des entités non humaines, ont des représentants. La deuxième chose, comment ? Ont des représentants humains. L'idée, c'était de les traiter comme des acteurs politiques à part entière, avec le même mode de représentation. La deuxième chose, au sein de chaque délégation, il y a des entités. Ces entités, c'est par exemple le gouvernement, une grande entreprise, la société civile, une organisation non gouvernementale. Et ces entités peuvent négocier individuellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui se passe dans certaines salles, par exemple la salle transformable que vous allez voir, est assez proche des trahisons qu'il peut y avoir dans Game of Thrones. Alors je vous rassure, ou je vous déçois, vous ne trouverez ni l'érotisme, ni la violence, ni les armes de Game of Thrones, mais il y a une logique de possibilité pour une entité de quitter sa délégation pour s'allier avec d'autres et faire de nouvelles forces de négociation. Pour être concret, si je suis une ONG dans la délégation française, je vais me rendre compte que j'ai peut-être intérêt à faire alliance avec, je ne sais pas, les représentants des peuples polaires, les représentants des forêts, etc., etc. Troisième innovation, on ne négocie pas autour d'un chiffre, mais d'une vision et des trajectoires pour aboutir à cette vision. En gros, la question qu'on a posée aux délégués, comment voyez-vous 2050 ? Donc voilà, il y avait l'envie de mettre une manière de faire différente.
Dear parties to the convention, honorable delegates, esteemed guests, it is indeed an honor for me to be able to serve you as president of the 21st Conference of the Parties. The negotiations have started. We are all gathered here to envision a common future. New parties are present, parties that represent state and non-state actors.
Je suis Frédérique Aitouati, je suis metteur en scène de théâtre et chercheur au CNRS, à l'EHESS, et dans le projet Make It Work, j'ai été aussi coordinatrice et prof à SPIP, l'École des arts politiques.
This is why we are here together, because we feel it is time for us to experiment with new practices of negotiating.
La première journée, la conférence des partis, des étudiants, a démarré avec le discours de la présidente, Jennifer Ching, qui a commencé par un assez beau discours, assez poignant, où elle énumérait toutes les réussites de ces 20 dernières années, et les réussites, c'était d'avoir réussi à augmenter considérablement les émissions de dioxyde de carbone, à vraiment polluer la Terre. Voilà. Donc elle énumérait comme ça tout un nombre un certain nombre de chiffres assez terrifiants. Et juste après, on avait la présentation de chaque délégation par ordre alphabétique, Algérie, atmosphère, voilà. Donc avec cette introduction, irruption des non-humains sur la scène politique. Voilà pour moi l'un des grands moments pour se plonger dans la conférence des partis.
The president would now like to call on the parties of the convention to come and present their opening speeches. Please proceed to the front. Polar regions.
Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes les régions polaires. Nous sommes, en quelque sorte, votre système d'alarme. L'Arctique et l'Antarctique se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne planétaire. La fonte des glaces contribue et contribuera non seulement à la montée du niveau des eaux des océans, mais également à l'aggravation du réchauffement climatique à cause des cercles vicieux et du dépassement de certains points de non-retour. À ces négociations, notre objectif est d'arriver à un accord permettant d'atteindre l'objectif des 2 degrés. Nous pouvons et nous devons y arriver. Merci.
Nous n'avons pas quitté l'âge de pierre parce que nous n'avons plus de pierre.
Non aspettiamo dunque di essere a corto di vivibilità su questo pianeta.
Wkrótce zabraknie nam czystej atmosfery, wody a ziemi.
在我们用完化石燃料之前，等我们一起想想怎样走出化石燃料的时代。
Je m'appelle Duncan Evenou et je suis un membre de l'équipe de SPIP. Et dans notre simulation, je suis en train de représenter l'ambassadeur de la présidence.
De quelle présidence ?
La présidence de la négociation que nous sommes en train de faire. Moi, je suis comédien, metteur en scène. Mon rôle, ça a été, une fois que j'ai réalisé que le centre du projet allait se tourner aussi beaucoup autour d'étudiants de Sciences Po qui allaient faire le secrétariat, mon but a été de vraiment créer le lien entre l'univers du théâtre et un univers qui est celui de ces jeunes étudiants de Sciences Po. Comme ce sont deux logiques très étrangères l'une de l'autre, et j'ai essayé vraiment de faire le pont entre ces mondes. Il y a une chose qui est très intéressante qui se passe en ce moment, c'est que quand on fait des séances plénières dans la grande salle de théâtre des Amandiers, qui est un dispositif qui reste assez classique, en fait, un dispositif de conférence que ces étudiants manient avec brio. Et dès l'instant où on les met dans la salle transformable où le design de Rome Labor vient, avec les portes qui sont ouvertes sur l'extérieur, le vent qui souffle, les feuilles qui sont sur les tables, la présence des spectateurs qui sont sur les balcons, et bien tout d'un coup, on sent à quel point ça les déplace de leurs habitudes et que peut-être à ce moment-là qu'on peut arriver à avoir des choses innovantes, étonnantes dans les négociations.
Quand vous parlez d'habitudes, ce sont de jeunes étudiants, ils n'ont jamais participé à des négociations internationales.
En fait, si, il y en a, ils sont rodés, c'est impressionnant. La dernière fois, il y avait un jeune étudiant de la délégation indienne qui était à mourir de rire, qui est venu me voir en me disant que c'était It's very unusual. Il avait vraiment pas l'habitude de voir ce qui se passait autour de lui. Et il me disait qu'il avait l'habitude qu'il avait déjà fait 5 négociations sur le climat aux États-Unis et que c'était vraiment clairement un globe-trotter qui s'amuse à faire des simulations un peu partout dans le monde entier. Et c'est des machines de guerre qui sont habituées à un format très classique de négociation.
Ce sont les futurs dirigeants ?
Je pense que, en tout cas, une grande partie d'entre eux sont des futurs dirigeants dans le cadre privé et public, oui.
Alors, est-ce que c'est inquiétant le fait qu'ils aient du mal à s'adapter ?
Moi, je vais vous dire la vérité. Hier, j'étais en larmes et je voyais tout en noir. J'avais envie de tout foutre en l'air quand je voyais que ce format classique de négociation, ils arrivaient à très bien s'en contenter, en fait. Il y avait quelque chose de désespérant dans le fait qu'aucun d'entre eux n'ait envie de faire décoller la chose.
Sahara.
Bonsoir. Le Sahara est un territoire. Un territoire qui a de nombreuses frontières, mais qui pourtant n'en a pas. Un territoire qui doit avoir une voix, comme il en a ce soir.
Donc, je m'appelle Anaïs Diamel, je suis étudiante à Sciences Po et je représente, dans le cadre des négociations de la COP21 Make It Work, la délégation du Sahara et plus précisément les populations du Sahel.
Nous devons agir ensemble, maintenant, pour sauver notre futur. Merci.
C'est que malheureusement, nous avons une vision assez occidentale et nous sommes tous, presque tous, des étudiants occidentaux qui n'avons jamais vécu dans le désert. Je n'ai jamais rencontré de Touareg personnellement. Je ne me suis même jamais rendue dans les pays que je représente. Et on doit à la fois essayer de faire cohabiter ces deux visions. Et c'est extrêmement difficile de proposer des solutions. Je suis désolée de dire ça, mais si par exemple c'était un Touareg qui me représentait aujourd'hui, et je généralise à toute la simulation, je ne pense pas qu'on aboutirait à un accord demain.
Ah bon ? Pourquoi ?
Les enjeux sont trop différents.
Ça veut dire qu'à la COP21, telle que vous l'imaginez, il ne peut pas y avoir de diversité de population. Il faut que ça soit que des jeunes hommes à dominante blanche, habillés en costume, trois pièces mal coupées.
Je n'ai absolument pas dit ça. J'ai dit que les négociations en tant que telles doivent avoir une représentation des populations. Et doivent avoir une représentation, pas même des populations, mais de la diversité de notre planète. Que ça soit en tant que territoire, ou en tant que population, ou en tant que justement de ces différentes layers, comme on dit en anglais. Je suis désolée, on travaille avec ce mot. Qui vont s'entremêler. Et c'est ce qu'on fait. Par contre, si on examine réalistiquement ce qui se passe dans les vraies négociations, est-ce que vous pensez sincèrement, je vous pose la question à vous, que des Touaregs peuvent avoir une représentation dans les négociations climatiques, objectivement, dans l'heure diplomatique actuelle ?
En fait, on a l'impression que on n'est pas dans du théâtre, alors qu'on doit être dans une forme théâtrale. On est plus dans un jeu de rôle d'entreprise, de grande entreprise, et où finalement les populations sont des briques ou des cartes, et que vous avez ces cartes en main. C'est une question ouverte.
Oui, bien sûr. D'une certaine manière, oui. Mais en fait, on essaye de faire notre possible pour représenter ces intérêts.
En quoi, demain soir, l'accord témoignera d'une avancée pour ces populations sahéliennes ?
Là, ce qu'on est en train de négocier, on parle de changer le climat. C'est ce qu'on est en train de parler. Sauf qu'on se rend compte que pour changer le climat, il faut presque changer le monde. Et donc, si on veut changer le monde, il faut parler de développement humain. Et c'est à ce moment-là que là, les populations rentrent en compte. Et moi, c'est mon objectif dans ces négociations. C'est ramener sur le plateau des sujets qui ne sont pas forcément climatiques.
Là, pour l'énergie, c'est parce qu'on ne peut pas l'adapter pour voir l'énergie. Il faudrait qu'on essaye de l'adapter pour faire entrer l'énergie. Mais le format actuel tel qu'il fonctionne maintenant, ça semble un petit peu difficile. C'est pour ça
peut-être
qu'on doit travailler.
Juste, on est parti de ça et on a discuté. Et ce qu'on a réalisé, c'était toute cette histoire de réseau, d'interdépendance, etc. Et peut-être que juste le rendu de ce qu'on a fait, c'est juste un texte de un ou deux paragraphes pour dire, ben voilà, en 2050, l'humanité et la non-humanité seront... Enfin, les acteurs... du climat en général seront interconnectés pour trouver des solutions communes aux problèmes communs qui se posent. Enfin, tu vois, des choses comme ça.
C'est bateau. Je trouve séduisant, cette, même si pour le coup, on n'a pas. Ça fait que 2 heures qu'on en parle et c'est une idée qui a émergé il n'y a pas longtemps. On en a discuté 2 heures entre plein de gens qui ont changé. Je trouve assez séduisant le format. En 2015, il y a 7 entités qui a ce problème. Imagine en 2050, ou même pas imagine, mais même se projeter juste en 2050, telle entité ont aidé...
Grâce à quelle entité ?
Exactement, et à travers quels moyens ? Et c'est le format qui a été proposé au départ. C'est un format ultra flexible et ultra adaptable. C'est ça qui fait son côté attractif. Et en même temps, derrière, il y a toutes les idées d'interdépendance, de réseau, d'organisation horizontale et de un petit peu empiéter sur le domaine de souveraineté des États. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Et là, aujourd'hui, il commence à y avoir deux trajectoires qui commencent à se dessiner, c'est-à-dire qu'une partie des gens qui disent « mais c'est insupportable de travailler de cette manière-là, il nous faut reconsidérer la façon qu'on a de négocier entre nous, et que peut-être cette négociation qu'on est en train de faire, c'est le moyen de réinventer de nouvelles façons de travailler ensemble. » Et de l'autre côté, il y a une autre trajectoire qui dit « il est hors de question que nous revenions en arrière, nous avons travaillé très dur pendant 2 jours et demi, on ne va pas lâcher le morceau et on va continuer à s'attacher à ce qu'on a fait. » Donc je suis un peu curieux de voir à la fin de l'après-midi comment les choses vont se goupiller et si on arrivera à faire soit combiner ces deux trajectoires, soit si elles vont éclater et chacun va travailler dans son coin et on aura 2 délivrables. Un délivrable qui sera peut-être un accord qui ressemblera très fortement à celui de la réelle COP21 et de l'autre côté un délivrable qui sera plutôt des outils, des propositions pour arriver à négocier autrement.
Est-ce que ces jeunes sont vieux ?
Le plus bizarre, c'est qu'on n'arrive pas à revenir sur ce qu'on a créé pour aider l'environnement, alors que depuis le début...
Aïe.
Pour lutter contre l'environnement, il y a un peu d'élément.
Ça dépend des moments.
Enfin, on dit aider l'environnement comme si c'était condescendant.
Avec ces étudiants, d'une certaine manière, c'est que face à un grand inconnu, dans cette situation dans laquelle on les met, où on les projette, et mon Dieu, il y a un grand inconnu qui leur tombe dessus, effectivement, dans ces moments-là, quand ils ont peur, ils deviennent tout d'un coup... très rigide, très difficile à il n'y a plus de souplesse qui peut se mettre en place. Et puis petit à petit, il y a des moments où tout d'un coup, heureusement, il y a quand même un petit noyau de dissidents qui commencent à dire qu'il faut innover, travailler autrement, amener d'autres idées. Et ceux-là font un travail de seeding. Ils font vraiment, ils plantent des graines chez les gens, ils parlent, ça se projette un petit peu chez les uns les autres et à la fin on arrive tout d'un coup à avoir peut-être un mouvement de groupe qui crée la belle grande révolution qu'on attend tous.
Alors SPIP a été à la fois central dans le projet et je dirais en conflit assez ouvert avec le projet. C'était une année difficile, passionnante pour tous. D'abord ils ont été centraux parce que c'est eux qui ont été à l'initiative de pas mal des idées de la conférence, de la simulation, c'est-à-dire l'idée, par exemple, que chaque délégation a plusieurs casquettes à l'intérieur, plusieurs entités, donc des gens qui sont en opposition à l'intérieur de chaque délégation. Ça, c'est une idée qui a été vraiment développée par SPIP, avec l'idée donc d'une double loyauté qui complique, qui complexifie la négociation. C'était une idée importante, en fait, à la fois de ne pas simplement refaire un modèle onusien, ce qui est le cas classique des MUN, modèle United Nations, donc de ne pas copier ce qui existe, mais d'essayer de transformer un petit peu les règles. Donc SPIP a fait partie de cette réflexion de façon très forte, de cette expérience de pensée. Une partie des étudiants, il faut le dire, hein, pour être honnête avec ce qui s'est passé, une partie des étudiants a été, je pense, très en lutte contre l'exercice même, qui est évidemment une forme de formation des élites, avec, il ne faut pas se mentir, hein, beaucoup de jeunes étudiants blancs, occidentaux, bien habillés, en train de préjouer leur futur rôle de leaders mondiaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, dans la politique des corps, pouvait être assez à la fois préoccupant et parlant.
Le dernier départ qui est discuté se fera à 7h30 au point d'accueil.
Monsieur ? Après, on va essayer de discuter un peu avec un des délégués, parce qu'ils ont quand même plein de choses intéressantes à dire. Là, comme ils sont en plénière, c'est un peu difficile de les mobiliser.
Sur leur pancarte, ils ont le nom de la délégation qu'ils représentent.
Ah, tout à fait.
excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions?
Oui, bien sûr.
Alors, je suis donc avec mon petit groupe. On voudrait savoir un peu où vous en êtes avec la négociation, ce qui s'est passé à la plénière.
On est en train d'aller de l'avant. On dirait pas comme ça parce qu'on est en train de revenir sur notre façon de négocier plutôt que sur ce qui est négocié. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui nous est demandé. C'est-à-dire de voir qu'en négociant de façon différente, on peut arriver à des résultats qui sont différents. Et je pense qu'avec le format actuel de négociation, le problème, c'est qu'on arrive à un certain vide conceptuel. Et on nous parle de well-being, de health, environmental health, mais qu'est-ce qu'on entend par environmental health? Qu'est-ce qu'on entend par environmental right? Et c'est ça qui manque. Quand on nous demande de définir une vision, on nous demande de définir. Et ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le texte. Et le problème du texte, c'est que c'est quelque chose de linéaire. Alors qu'une vision, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de hiérarchisé, c'est quelque chose d'assez circulaire qu'on peut voir dans un diagramme, mais évidemment, le diagramme n'est pas suffisant. On est tous en train de développer des réflexions assez nouvelles. Et pour autant, les négociations vont pas de l'avant.
Vous êtes de Sciences Po?
Oui.
Vous avez été préparé comment, alors?
Bon, on a eu des conférences à Sciences Po, mais on a aussi préparé chacun comme on le sentait, en lisant des choses, en allant... Voilà.
Et comment vous vous êtes, attribué la représentation d'un État?
Alors, en fait, on a...
C'est un groupe de personnes.
Alors, il n'y a pas que des États, déjà. Oui. Il y a aussi des non-États. Et on a postulé, en fait, auprès du secrétariat général pour les entités qu'on voulait représenter. Moi, j'avais envie de représenter Internet. Du coup, j'ai demandé et je l'ai eu. Donc voilà, j'étais dans la délégation Internet.
D'accord. Donc, il n'y a pas eu d'entraînement particulier avant?
Si, on a fait une simulation de la simulation. C'était sur quelle est la quantité de viande qu'on veut dans nos assiettes en 2050.
Et vous êtes... ce sont les élèves de toutes les licences, masters...
Alors, il y a 100 élèves de Sciences Po, 50 d'universités françaises, 50 d'universités étrangères.
Voilà. D'accord.
Là, c'est un petit peu le bazar parce que ce matin, on a réalisé en fait que les négociations ne fonctionnaient pas. Donc, une bonne partie des délégués a décidé d'arrêter de négocier. Donc, je fais partie du groupe qui a arrêté de négocier parce qu'on était en train de négocier un énième accord climatique de la même manière qu'ils sont négociés à l'ONU alors qu'on ne les appliquera jamais et qu'on n'est pas là pour faire un texte que des gens mieux formés et plus experts pourraient faire mieux que nous. Donc, on a essayé de faire ça, qui est un... format un petit peu plus innovant.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ça?
Alors, l'objectif, en fait, c'était de se demander comment est-ce qu'on veut que le monde soit en 2050. Donc, on est parti de choses assez concrètes, comme comment sera mon 30 mai 2050. Donc, on s'est dit, quand je vais me lever le matin, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais amener mes enfants à l'école, avec quoi je vais m'habiller, avec quelle électricité je vais charger mon téléphone. Et on a essayé de dérouler comme ça le fil de la journée d'un citoyen lambda en 2050. Et des idées sont aussi venues de ça. Et finalement, quand on essaie de se dire qu'est-ce qu'on veut en 2050, on trouve des solutions pour le changement climatique. Alors que si on reste concentré sur cette idée de changement climatique et de comment le résoudre, sans sortir du cadre finalement de cette réflexion, on retombe sur ça, sur ces négociations sans fin, sur un texte que personne ne lit et que des délégués ont signé, mais qui ne sera jamais appliqué.
C'est pas un petit peu inquiétant, au bout d'une journée, à peine une journée de négociation, d'organiser un contre-sommet?
Bah, en fait, on était vraiment dans une impasse. Donc, à partir de là, on a eu comme seule solution de réagir. On a bien vu que les négociations étaient bloquées. Et je pense qu'il risque d'avoir ce problème-là à la COP, à la vraie COP, malheureusement. Donc, je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Paris a l'air très ambitieux. Enfin, la délégation française est certainement très ambitieuse et va essayer d'arranger les choses. Mais le problème, c'est que la manière de négocier arrive à un blocage. Donc, il va falloir changer la manière de négocier.
Le fait de sortir physiquement de la salle des négociations, parce que là vous êtes dans un espace en dehors de la salle,
ouais.
C'est signifiant aussi?
Ah oui, en fait on a vraiment pu apprivoiser l'espace, je dirais, et ça nous a vraiment permis en fait de sortir complètement de ces négociations, et étant dans un nouvel espace qu'on n'avait encore jamais vu, on a commencé à penser différemment et à agir différemment, et en fait quand ils nous ont demandé de revenir ici pour des questions pratiques aussi, ça nous a un peu ralenti, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait notre relation à l'espace était essentielle pour les négociations, et que même quand ils nous ont demandé d'être dans la salle où on avait négocié l'accord onusien, en fait on n'a pas pu, parce que c'était une salle où là on était sur quelque chose de trop conventionnel, et donc on a eu besoin aussi de sortir pour ça.
Alors on parle d'environnement, on parle de climat, et si on veut parler de l'environnement et du climat dans lequel s'est déroulé cette conférence, on était au milieu d'une cité, une cité très compliquée en région parisienne. Est-ce que le fait d'être dans cette cité a joué sur l'événement?
Oui, je pense. Déjà parce que SPIP était en résidence toute l'année à Nanterre. Donc, quand on allait donner cours, quand on allait partager les séances de cours avec les étudiants, on n'allait pas à Saint-Germain-des-Prés. On prenait le RER jusqu'à Nanterre préfecture. On traversait le parc André Malraux, qui il y a quelques années était encore difficile. Et puis, on tombait sur cette étonnante architecture années 60, du Théâtre des Amandiers. Donc voilà, on était dans un environnement, dans un climat de bordure, de grande ville occidentale qui était intéressant et sur lequel Philippe Ken, le directeur des lieux, a beaucoup travaillé. Enfin, c'est quelque chose qui l'intéressait. Et nous, Bruno et moi, ça nous intéressait beaucoup de faire cette simulation, non pas à Saint-Germain-des-Prés, non pas à Sciences Po, mais à Nanterre. Avec cette idée quand même importante, dès le départ, d'ouvrir la boîte noire des négociations et donc de faire en sorte que ce théâtre, on le sait bien, hein, les théâtres de banlieue parisienne ne sont pas forcément à Bobigny ou ailleurs fréquentés par les gens du CRU. Néanmoins, il y avait vraiment cette volonté d'aller chercher sur place les gens pour qu'ils participent à cet événement qui était gratuit, ouvert pendant 3 jours. Et là, SPIP aussi a eu un petit rôle, hein, avec le staff des Amandiers qui sont allés chercher les gens un petit peu sur la place du marché, partout, pour leur dire « Venez voir, il y a un truc qui se passe au théâtre. Vous êtes peut-être jamais venus. » Les architectes de Rome Labor avaient mis une énorme cheminée gonflable avec de la fumée qui sortait, une espèce d'esthétique comme ça, d'usine, make it work en gros. Voilà, l'idée, c'était d'attirer visuellement aussi, de faire une espèce de marqueur urbain dans la ville, pour que les gens se disent « Tiens, il y a un truc qui se passe », et puis qu'ils se retrouvent dans cette conférence, performance, création, spectacle, expérience, on ne sait pas trop comment on l'a nommé, encore maintenant, quelques mois après, et qu'ils se trouvent immergés dans quelque chose qu'ils ne comprenaient pas forcément sur tous ses tenants et aboutissants. Personne n'a vraiment compris tout ce qui se passait, c'était un événement multispatial, mais qu'on essaye de partager avec un public des choses qui normalement ne sont pas partagées.
Non, mais le Théâtre des Amandiers, c'était une bonne idée, en tout cas pour les négociations. C'est vrai qu'on s'est tous pris au jeu, je pense, du côté théâtral et du fait que, étant dans un théâtre, on pouvait se permettre plus de choses. Après, cette salle particulièrement, moi, je la trouve pas très inspirante. Et c'est dommage parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin, enfin, c'est ce qu'on s'est dit, on a besoin d'inspiration, on a besoin de créativité. Et c'est ça qu'on veut apporter aux négociations climatiques. Ça sert à rien qu'en tant qu'étudiant, en dernière année ou même en première année, parce qu'il y en a, on se dise, bah, tiens, on va apporter un texte hyper technique sur la quantité de CO2 qu'on va rejeter dans l'atmosphère, alors qu'on sait absolument pas ce que ça signifie. Enfin, ce qu'on peut apporter, nous, en tant que jeune génération, c'est ce qu'on veut pour le futur et dans quelle société on a envie de vivre. Et sans changement structurel de notre société, on n'aura pas de solution pour le changement climatique.
Est-ce que vous faites appel à des consultants pour vous aider ?
Pas du tout. Pas du tout. On a juste nos ordinateurs pour faire des recherches et puis la préparation qu'on a fait en amont pour essayer de connaître un peu nos entités. Après là, ce qu'on a fait en quittant les négociations, c'est finalement aussi sortir notre rôle d'entité et redevenir à la fois des étudiants et à la fois des entités. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des étudiants parce que ça serait trop facile d'être idéaliste et révolutionnaire. Mais on ne veut pas non plus être trop nos délégations parce que c'est aussi nous bloquer dans un carcan qui nous a empêchés de réfléchir jusque-là.
Vous vous appelez comment ?
Émilie.
Émilie comment ?
Le Chevalier.
We need to know which part is it going to set. Our war.
Ils vont mettre de la musique.
Ouais, ils vont danser. On peut s'asseoir ici. Ça, c'est là qu'on travaille tous les gens de SPIP. Vous connaissez c'est quoi le programme de SPIP
C'est des gens comme vous qui ont une fleur au-dessus de l'oreille.
Exactement, c'est ça. C'est le Sciences Po École d'Art Politique, qui est un programme de master commencé par Bruno Latour, fondé par Bruno Latour, je veux dire, et Valérie Pille, qui est au Sciences Po. Et c'est un projet pour penser la politique autrement, avec des artistes, des sociologues, des gens qui viennent un peu de partout, pas seulement les gens qui font de la politique.
Qu'est-ce que vous faites avant?
Moi, je suis chorégraphe et musicien. Je vis et je travaille au Caire, en Égypte. Et je suis là juste pour le projet, pour le programme.
Quel est votre regard sur ce programme au deuxième jour de cette conférence COP21?
Je pose la question, il sert à quoi l'art dans des discussions comme ça et pourquoi on a besoin d'entrer dans une salle de théâtre pour faire une simulation? Et est-ce que c'est une simulation ou c'est le processus normal ou c'est un spectacle? C'est quoi en fait? Je me demande c'est quoi la position de l'art dans toute cette histoire? Est-ce que c'est la chose en commun entre nous, les artistes dans ce projet, et les gens, les étudiants du Sciences Po? Est-ce que la chose en commun, c'est la politique ou c'est l'art? Mais il y en a parmi ces étudiants-là des gens qui sont vraiment intéressés par la question de est-ce qu'on peut changer les négociations, est-ce qu'on peut sortir de ce jeu traditionnel classique? Mais il y en a des autres qui sont là pour to make it work, mais vraiment... le truc traditionnel, ils parlent déjà comme s'ils sont des ambassadeurs et comment ils parlent pendant les cocktails. Mais vraiment, il y a des choses, j'étais impressionné. C'est des gens qui sont venus pour faire un jeu parfait, mais en même temps, ils ne pensent pas que c'est la performance. Je viens de raconter une histoire. Il y avait hier une des déléguées qui venait me poser la question, et moi je fais, qu'est-ce que tu fais comme artiste là? C'est quoi ton rôle dans ce spectacle? C'est ça qu'elle a dit, moi. Et moi, j'ai pas un rôle spectaculaire, j'étais là en fait comme spectateur hier. Et je dis, non, je fais rien, je joue pas un rôle. Non, mais comment tu es habillé comme ça? Et moi, j'étais en costume traditionnel égyptien que je porte normalement chez moi en Égypte. Et j'ai dit, non, mais en fait, c'est pas moi l'art, c'est vous. Et c'est pas moi qui est en costume, c'est vous. Alors, c'est vous qui êtes en train de faire la performance là, en train de parler avec moi. Et tu penses que moi, c'est pas la vie, c'est le théâtre. Et toi, c'est la vie et pas le théâtre. On a parlé un peu de ça. Elle était choquée et un peu énervée.
This is based on the nuclear non-proliferation treaty. For anybody who might have not recognized it,
ils ont décidé de faire une séance plénière de crise. Ce qui se passe là de très intéressant, c'est que ceux qui sont les plus novateurs et les moins orthodoxes ont réussi à prendre le pouvoir. Donc là, ce qu'ils essayent de faire depuis plusieurs heures, c'est de créer un nouveau type de texte de négociation et imaginer des manières de formuler, peut-être sans consensus, peut-être avec des termes non juridiquement contraignants, mais au moins de formuler des visions du monde sur lesquelles ils peuvent s'accorder et qui leur permettent vraiment de proposer des solutions concrètes. Donc en fait, ils sont en train de sortir d'un cadre et de le réinventer. Alors forcément, ça ne se fait pas sans douleur et ça ne se fait pas sans doute, sans crispation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, pour certains, quitté leur costume trois pièces, ils ont enlevé leur cravate, ils sont sortis dans l'herbe, ils sont allés travailler dans les ateliers de décor de Chéreau, dans la scénographie de Philippe Ken. Et c'est ce lieu-là, comme par hasard, qui est devenu un peu le cœur de la rébellion. Et maintenant, ils reviennent dans cette salle qui est beaucoup plus flexible et qui permet beaucoup plus d'inventer que la grande salle qui ressemble beaucoup plus à une salle plénière onusienne. Et donc, comme ils réinventent tout, je ne sais pas du tout s'ils vont arriver à leur fin.
And this is also the answer to a question that was raised by many delegates, which was, why are we here? We are here because we are willing to find common solutions between actors that are not supposed.
Pour moi, le mot théâtre des négociations était important parce que théâtre, en grec, ça veut dire le lieu d'où l'on voit. Et là, on est sur la passerelle de la transformable des Amandiers. On est le lieu d'où l'on voit vraiment la négociation.
Delegates, representatives of people, of forests, soil, oceans, countries, representatives of the world, that decided to come together to negotiate and to find solutions that would not have been found in a common space of negotiation.
Mais on aimerait bien que demain, même si aucun accord n'aboutit, notre succès, ce serait d'avoir pu donner à voir, d'avoir mis en lumière des lignes de fracture et des impossibilités à s'entendre. Et ça, en soi, c'est une avancée énorme, puisque les négociations classiques, enfin la diplomatie classique, a plutôt tendance à voiler qu'à révéler toutes ces mésententes.
On est face à un écran immense où un texte est en train d'être formulé.
Oui, mais regardez le style du texte. Il n'a plus rien à voir avec le genre de texte dont on était parti hier. Driven by the spirit of make it work, undertaking to cooperate in facilitating the establishment of a council to climate security. Donc on est dans une espèce de mix entre un texte juridique et un manifeste.
C'est un manifeste très sage quand même.
Oui, ils ont encore la nuit pour le rendre beaucoup plus fou.
Tout à l'heure, j'ai senti un petit peu de mépris dans l'une des questions vers l'une des délégations qui a décidé de s'exprimer par des schémas et non pas par des paragraphes.
C'est-à-dire qu'on est dans une réaction classique de... C'est un peu des querelles des nouveaux contre les anciens. Les juristes ont une réaction d'un juriste classique que j'ai entendu tout à l'heure est arrivé vraiment en me disant « Mais vous imaginez bien que c'est impossible de travailler sur une image est soumise à multiples interprétations, alors qu'un texte juridique, l'avantage, c'est qu'on peut travailler dessus, il a un sens précis et on sait à quoi s'attaquer. » Or, c'est ça qui est très très drôle, c'est que quand dès l'instant on commence à leur dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot innovation ? Qu'est-ce que ça veut dire le mot globalité, universalité, croissance ?» En fait, ça ne veut pas dire grand-chose non plus et c'est aussi soumis à de multiples interprétations. Donc là, il y a une confusion de part et d'autre qui est très amusante.
« Plenary session is about to start. If all the delegates please come back in, we will close the door. » You're allowed to bring the panels back.
1, 2. Les journalistes sont priés de reculer de l'espace de négociation, s'il vous plaît.
Non, mais maintenant, s'il vous plaît, mesdames. Madame, oui. Monsieur.
Il est demandé aux observateurs de reculer aussi de l'espace de négociation. En vous remerciant.
Faut que vous sortiez. On entend, voilà. Il faut vraiment...
Émilie, hier, on vous a vu sortir des négociations. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier ?
Beaucoup de choses. Déjà, il y a eu une nuit blanche entre-temps. Donc, tout devient de plus en plus confus. Et il y a aussi beaucoup d'émotions, puisqu'on a enfin des choses qui sont sorties. Et on sent que c'est la fin et que là, on va faire un petit break sur le climat et puis repenser à tout ça, à tête reposée. Nous, de notre côté, on a essayé de faire une sorte de livre blanc avec des idées qui sortent un peu plus du cadre. Encore une fois, on n'a pas voulu continuer avec cette idée de consensus, c'est-à-dire qu'on était tous d'accord sur de grandes idées. Après, on s'est répartis en petits groupes et on a produit des choses, on a essayé de trouver des solutions. On a essayé aussi de faire un débrief sur notre évolution, de quoi on était parti jeudi et où est-ce qu'on en était maintenant. Et donc, c'est ce qui est sorti. Là, on a 5 propositions dans notre livre blanc qui sont évidemment assez cohérentes, alors que pourtant, on les a tous fait un peu... chacun dans son coin, donc c'est assez agréable, parce que finalement, on n'a pas cherché de consensus et on en a un autour de des valeurs qu'on défend.
Adam, qu'est-ce qui se passe maintenant ?
Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Là, il y a des visites guidées, il y a des gens pressés qui sont en train de... finaliser le fanzine de maintenant qui parle d'hier soir et puis commencer sur celui d'aujourd'hui. Il y a la radio de SPIP, alors tout ça c'est les étudiants de SPIP. Et oui, alors c'est le dernier jour, on essaie de capter un peu ce qui se passe. Dans la salle transformable, il y avait les discussions, les dernières négociations et les déclarations. Et là, la conférence va continuer après ça. À 18h, ça sera le dernier truc, ça sera le grand show. On ne sait pas ça sera quoi.
Juste derrière vous, Adam, on voit écrit en rouge « Bullshit, foutaise ».
Oui. Ça, c'est une de notre collègues, je crois, qui a écrit ça. Qu'elle croit plus, je crois, dans ce jeu. Qui a une expérience partagée parmi plein de gens. Hier, il y avait une centaine qui ont quitté les négociations des étudiants. Alors, normalement, c'était 220, un truc comme ça. Il reste que 100 quelque chose. Pas mal de gens qui ont quitté le projet.
C'est une bonne nouvelle que quelqu'un puisse écrire foutaise sur le jeu qu'il a lui-même créé.
C'est génial, je crois. Et je crois que c'est super aussi qu'il y avait des gens qui quittent le projet parce que c'est, ça veut dire qu'il y a quelque chose du vrai qui finalement commencé à se passer.
All right, can we please have order in the house?
It's not about that only. See, Ethiopia can talk some rationally, but if you guys need to pledge that you're going to give money, you know?
We have already pledged that we want to give money. It just is voluntary.
When will you give? That's the question.
Yeah.
We have pledged it for years and years that we will give money, we will give money. People are dying. When will you give money?
Well, I'm afraid that because it's a shared responsibility, it's difficult to say exactly who gives how much. That means
you can give $1 million and you said that I contributed.
Yes.
It has to
yes.
Be
Okay, so all the parties, all the delegates that are here in the plenary session, can I please have your attention while the delegation of US will present this new pathway.
Je m'appelle Laura Robach et je représente l'Inuit Global Council, globalement la population des Inuits. Donc actuellement, on n'a pas réussi à avoir vraiment des visions communes. Les consensus qui ont été atteints sont soit assez vides de sens et ou vides d'engagement. Et ça se ressent énormément dans les trajectoires. Mais néanmoins, il y a des vraies avancées. Et là, par exemple, tout ce qui est le droit des migrants, le statut de réfugié climatique, par exemple, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle et qui est ici relativement bien abordé. Donc là, on a produit un espèce de... un regroupement de textes ou de visualisation de ce que pourraient être des visions communes. C'est dans une espèce de partie alternative qui ne sera pas dans l'accord final, mais qui sera à disposition. Mais il ne s'agit pas du tout de choses abouties. Enfin, je pense que ça... Enfin, c'est également un jugement personnel. Mais je pense que ça donne des idées, ça donne envie de continuer à essayer de trouver des choses, mais... On voit surtout qu'il faut que tout vienne d'en bas, en fait. Que les négociations, soient le reflet d'une volonté populaire. Quoique, non, c'est pas peut-être vraiment ça que je veux dire. les négociations soient plus un moyen d'interconnecter les acteurs, mais qu'il y ait vraiment une volonté de tout le monde de participer à stopper le changement climatique.
Est-ce qu'on va arriver à un accord, là?
Il y aura un accord, oui. Mais oui, il y aura un accord. Mais quel accord ?
Bonsoir à tous. Mon nom est Bruno Latour et je suis professeur à Sciences Po et à l'initiative de cette étrange situation dans laquelle nous nous trouvons. J'ai le plaisir d'être sur le podium préparé pour la cérémonie de signature auquel 200 élèves venus du monde entier ont travaillé, mais comme il s'agit d'une simulation vraie, comme dans la vraie simulation, c'est-à-dire la réalité, ils sont en retard. Après, mais je peux sans dévoiler leur recherche, dire qu'on a déjà accompli un énorme travail.
Ce qui est la grande découverte de simulation sur ce sujet-là, c'est que les élèves ne jouaient pas. Ils n'étaient pas en train de jouer la comédie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment, ils faisaient du chahut. Ils n'étaient pas en train de blaguer. Ils étaient dans le rôle. Et pas comme des acteurs, qui, quand ils se débarbouillent, ne sont plus dans le rôle. Ils étaient, pendant 6 jours, complètement dans le rôle, de façon non-stop, pour essayer de trouver des deals. Là, c'était une situation qui était simulée, réelle. C'est la modélisation est mieux que simulation, en fait. Je pense que c'est une méthode qui va se diffuser inévitablement. En tout cas, le lien entre théâtre, simulation, science et politique est très ancien, bien évidemment. Et il faut le recréer pour ces questions-là, parce qu'on ne sait pas comment faire sur toutes ces questions. Donc c'est très très important qu'on ait des moyens de s'exprimer. Tout ce travail devrait être fait par les partis écologiques, mais comme vous le savez, ils ont disparu. Et donc tout ce travail d'invention de formes de politique, quand je dis forme, c'est aussi de forme, vraiment au sens artistique aussi, a été très mal pris en compte par les partis. Donc, au lieu d'avoir ce travail que nous avons appris à faire par le socialisme ou le libéralisme selon les positions politiques au XIXe siècle, n'a pas été repris par les partis au 20e. Donc on arrive au 21e, un peu tard du point de vue des enjeux, démunis. On est démunis d'habitude de penser, on est démunis de... On ne sait pas comment s'indigner, ni de quoi il faut s'indigner. On est démunis de jugement sur les positions. On est démunis dramatiquement de connaissances sur la science de tous ces écosystèmes dans lesquels on est, de façon tragique, disons, on est d'une ignorance. Et en plus, les scientifiques eux-mêmes découvrent leur ignorance sur tout le système Terre, disons. Et donc, évidemment, c'est compliqué de parler de politique dans ces conditions-là. Parce que la politique, c'est pas simplement d'avoir des opinions. La politique, c'est d'avoir des réactions, d'avoir des partis, d'avoir des réseaux d'associations, d'avoir toute une espèce de monde, qui existe évidemment, il y a tout un monde de gens qui travaillent sur l'écologie, mais qui est resté désespérément fragmenté. Mais dès qu'on parle à des industriels, dès qu'on parle à des paysans, dès qu'on parle à des militants, la politique, c'est d'installer une parole. Or, il n'y a pas de parole installée. Et donc, c'est ce déficit d'articulation, d'organisation qui nous rend muets. Et puis, il y a la recherche que je poursuis depuis de nombreuses années autour de la question de la représentation des êtres naturels en politique, disons, qui s'appuie à la fois sur des études de cas très, très nombreuses que nous avons fait, moi et mes camarades. Et le dernier fil, c'est la cartographie de controverse, c'est-à-dire la représentation des ce que j'appelle maintenant les territoires en lutte, qui sont en fait la repolitisation des questions écologiques. L'écologie, on pense toujours que c'est sympa et qu'il s'agit de s'entendre et de parler de la planète bleue. Alors que c'est pas vrai, c'est la politique, l'écologie, c'est la vraie politique. Et donc des situations de guerre et de paix. Et c'est ça qu'on a... Tout ça, c'est ça qu'on a essayé de jouer et de faire jouer aux élèves, mais on a été complètement dépassé par les élèves. Hein. C'est eux qui ont inventé tout le dispositif, c'est leur invention. Nous avons fait, Laurence Tubiana et moi, que dire, il faut que les non-humains soient représentés, il faut vous trouver une solution pour qu'on sorte du cadre de l'ONU, disons, et surtout, la décision importante est de le faire avant que la conférence de Paris.
Et Duncan, je pense que tu peux préciser, ils se sont mis d'accord sur les trois discours de 10 minutes qui vont suivre Jennifer.
Ça dure 10 minutes.
Et on peut profiter de la pause ici pour annoncer le déroulé à tout le monde au micro avant que vous quittiez la salle.
Ça marche.
Vous aurez le temps d'un café, du coca.
Excuse-moi, je vais refaire. On finisse de lire.
Il faudrait, ouais. Dans pas longtemps, il est
6 heures. Il signe.
Ouais.
Il signe dans la foulée.
Oui.
Donc on ouvre les portes pour la signature.
Oui, si vous voulez.
Une fois qu'on a tous signé et qu'on est content, on a 5 minutes.
Vous allez signer devant personne. Hein.
Ouais.
Vous allez signer entre vous.
Ouais.
Ou vous voulez remettre en scène les signatures sur scène?
Non.
On le fait là.
On le fait là.
On signe ici rapidement.
Ou alors, tu penses que la conférence s'arrête?
Non, la conférence, je peux pas la gérer, elle est lancée. Bruno, ça se passe très bien, mais.
Et Bruno, il s'arrête pas.
En fait, Bruno s'arrête pas. Non, le truc qui peut être chouette, c'est qu'on va ouvrir la porte et effectivement, les gens pourront observer.
Mais est-ce que la conférence sera finie au moment où on ouvrira les portes? Tu penses pas?
Non, mais il faut pas penser au public. Le public, il est bien parti en conférence. Okay. Mais après, normalement, il aurait fallu être à 6h30 sur le plateau, ce qui va être trop juste. Parce que là.
Là, il y a encore un quart d'heure. Moi, je veux entendre les textes qui étaient beaux, là.
Pour consensus, il faut aussi présenter.
Non, chut, ce mot-là.
Consensus, je connais pas ce mot.
C'est pas
en gros, il y aura nous...
Non, c'est une soirée de clôture, c'est pas une soirée de consensus.
Justement, nous, on va mettre en cause le consensus.
Bah, mettez...
Nous.
De toute façon, attends.
Après,
je me rappelle plus ton...
D'accord, ok, d'accord. Très bien. Ça, c'est une minute.
Hugo, ok,
très bien. Tu démarres comme ça, hop, le film Arminique. Et puis après, quand effectivement Jennifer, elle revient, toi, tu viens avec elle et tu fais la traduction.
Ok, super, ça marche.
Courage.
Yes.
On en est où, Duncan ?
On en est qu'on a prêt à une longue nuit blanche de travail et une ou deux heures de sommeil. On s'est remis au travail ce matin. On a fait un espèce de bilan pour voir ce qui était resté, ce qui a été fait des uns, des avancées des uns et des autres. Et on a passé l'après-midi à essayer de voter au consensus toutes les visions pathways. Et là, on a réussi à tout voter au consensus. Pour un premier texte, et ils sont en train là de passer en relecture tout le texte avant que chaque délégation vienne le signer.
Est-ce qu'ils ont utilisé vos outils, les outils artistiques que vous avez développés dans le cadre de SPIP ?
À l'heure actuelle, je n'arriverai pas à savoir si, dans quelle mesure ça les a aidés ou pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que les délégations qui ont décidé de s'interroger plutôt sur les nouveaux formats de négociation, là, pour le coup, se sont totalement appropriés les outils artistiques qui ont été à leur disposition.
Il est 18h à peu près. Est-ce que la planète va mieux ?
Je suis incapable de dire. Non, je suis incapable de répondre à ça. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Good evening.
Bonsoir.
Dear parties to the conference.
Chers parties de la conférence.
Honorable delegates and esteemed guests.
Chers délégués et très chers invités.
Well, I guess we finally made it work.
Eh bien, je crois qu'on a réussi à le faire marcher.
Before I begin, I would first like to give a few words of thanks to everyone who has really helped put this together. We're very thankful for Bruno Latour and Laurence Toubiana for giving us this opportunity.
Avant que nous commencions, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui nous ont permis de réaliser cet événement, comme Bruno Latour, Laurence Toubiana.
I'd like to thank Frédéric, Henri and Mathilde for really guiding us throughout this whole process and helping us when we're freaking out.
Je voudrais aussi remercier Frédéric Aitwati, Henri Landès et Mathilde Dimmer pour avoir réussi à nous maintenir ensemble et nous avoir soutenus dans les moments où on a totalement flippé.
And of course, I'd like to thank the theater for providing us with this wonderful venue where we can actually really innovate and do really interesting things. So thank you so much. The logistics was really hard.
Et bien évidemment, je voudrais remercier le théâtre sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu et grâce à tous les outils qu'ils ont mis à notre disposition pour pouvoir innover dans ce processus.
I would like to thank all the delegates on the stand for coming. Some of them have come from Beijing, some of them have come from New York, some of them have come from Australia. So that's a really, really long way and it was a lot of effort. So, but even the ones coming from Paris and Nanterre, that's also a little bit of effort. So, so really thank you all of you. It was really such an amazing experience to work with all of you. I think we all made some new friends as well.
Et je tiens aussi à remercier tous les délégués qui ont participé à l'événement, qui viennent tous pour la plupart de très loin, comme de Pékin, de New York, d'Australie, et même les Parisiens pour qui c'est un petit trajet à faire pour venir jusqu'à Nanterre.
Thank you.
The delegation of Australia. The delegation of Congo.
The delegation of cities and regions.
The delegation of Canada.
Woke up feeling like sleeping.
The delegation of Atmosphere.
The delegation of Brazil.
They're not talking, they're screaming.
The delegation of Climate Refugees.
The delegation of China.
Push my pillow on my head.
The delegation of Bangladesh.
A nation breathing, I will save all.
C'était Comédia del Clima avec Bruno Latour, Frédéric Aitwati, Duncan Evenou, Émilie Le Chevalier, Adam Hafez, Laura Aubach. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Mixage, Julien Douminc. Prise de son, Stéphane Beauchamp et Étienne Leroy. Réalisation, Christine Robert. Un documentaire d'Arnaud Contreras pour Sur les Docks.
Okay, ciao.